Lionel Damian, qui m'a fait rire aussi.
Pourquoi c'est drôle comme ça ?
On est désolé.
Non, mais c'est pas son nom, c'est ce qu'il a écrit.
C'est marrant, mais on sait pas pourquoi.
Voilà, c'est ce qu'il a écrit qui m'a fait. Il a réagi, mais direct comme ça, en mode « C'est celui des Animaux Fantastiques, ça ?»
C'est le gars des Animaux
Fantastiques. Le mec a fait je sais pas combien de
il
films géniaux.
Il a juste eu un Oscar.
C'est pas le mec qui a fait le film où les déguisés en gonzesse, là. C'est le procès de Dumbledore.
Oh, c'est la tapette, là.
C'est ça.
Eh, c'est celui-là, il joue le mec en fauteuil, là.
In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh, ok.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, allons piocher à nouveau dans la grosse boîte à films marquée de son gros N afin de pallier comme l'on peut à cette fermeture des salles qui n'en finit pas. Heureusement, tu es là à Netflix pour nous offrir du cinéma, même si c'est de notre canapé que nous nous délectons nostalgiques de ton catalogue. Catalogue désormais gonflé par les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin, scénariste émérite, qui pour la deuxième fois s'affuble de la casquette de réal pour signer un film retraçant l'histoire vraie d'un procès historique sur fond de 60s et de revendications contre la guerre du Vietnam. C'est de ça aujourd'hui qu'on va causer, ma team et moi. Et eux aussi sont bien échauffés. Ambiance.
Stop,
qu'est-ce qui se passe par ici là? Qu'est-ce qui vous avez là? Clément, qu'est-ce qui t'arrive?
On a des revendications! Il y a des choses qui sont plus possibles!
Ouais.
Réouvrez les cinémas!
Ouais.
Je n'ai plus de Malteser!
Oh non!
C'est quoi ça, la Erwan? Qu'est-ce qui t'arrive là? Calmez-vous là, Erwan. C'est quoi ton problème? Tu suis ça aussi? Les Maltesers?
Non. Des frites!
Des frites!
Doucement, on sait que c'est ton film préféré, mais doucement. Kevin, là, pourquoi tu suis ça, toi, Malteser, frites?
Ouais, besoin de rien, envie de toi.
Besoin de rien, envie de toi. Pourquoi je scande avec vous? Non, je suis contre vous. Clémence, qu'est-ce qui t'arrive, toi aussi, là?
Libérez Jean Mineur. Les pubs, c'est mieux sur le grand écran. Les pubs, Jean Mineur. Libérez Jean Mineur.
01 47 20 0001.
On va en parler après si vous voulez, mais on a une émission à faire d'abord, ok? Doucement, vous n'oubliez pas que All the world is listening.
All the world is listening.
Il a réintégré un peu de BA dans son intro.
Il est incroyable.
Génie. Putain, allez. C'est de l'impro, en plus, c'est pas sur tes notes.
Eh non, place au sommaire. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, il sera question du chiffre 7. Un chiffre qui résonne dans l'univers par son aura symbolique et forte. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, les 7 à la maison, etc. Mais c'est aussi le numéro que l'on colle à notre art préféré, le cinéma.
Ah oui, le 7, bien vu.
Le cinéma, on a aussi du 7 à revendre. 7 ans au Tibet, 7 psychopathes, les 7 samouraïs, les 7 mercenaires, les
7 ans de séduction.
7 Rogen.
Les 7 nains, et désormais les 7 de Chicago, un film d'Aaron Sorkin. Et si ce nom ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, on va vous le présenter, le bonhomme. Mais je suis certain que, sans le savoir, vous avez déjà croisé sa route au détour d'une télévision ou d'un écran de cinéma, au moins durant ces 7 dernières années. Mais 7, c'est aussi le titre québécois d'un film de David Fincher.
Ah oui, Seven.
Pour qui Sorkin a écrit de Social Network?
Intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme une...
Un complot?
Et Fincher, il a réalisé quoi dernièrement dont on va parler avec le match retour de la deuxième partie de cette émission?
Manque. Manque.
Ça veut dire 7 en...
Et ces deux films, ils ne seraient pas en course pour les Oscars? Et ils sont diffusés où?
sur
Netflix.
La septième.
Netflix.
Et combien a-t-il de lettres dans Netflix?
Il y en a sept. Attends, mais tu voles mon intro. Oui, il y en a,
sept.
Sept. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est le combien?
Le 7.
Ah, le 7. Oh, et on est combien autour de la table? 5.
Tout va bien.
Coïncidence? Je ne pense pas.
I don't think so.
Et vous voulez encore plus être scotché, auditeur, auditrice?
C'est-à-dire?
Regardez votre ordinateur ou votre portable avec lequel vous écoutez cet épisode et regardez le time code.
Attends, je
viens. À ce moment-là, allez-y, bim. Eh ben pas du tout 7 minutes. Vous croyez que je suis assez ingénieux pour faire ce genre de choses? Mais pas du tout. Bienvenue dans Feta BA.
Feta BA, il y a 7. Feta BA.
Je vous demande d'arrêter. Je vais arrêter de parler comme ça aussi. Ça suffit maintenant.
Ça arrive.
On va partir sur la BA.
Allez.
Allez, oui. Les 7 de Chicago. Hein?
The world is watching.
The whole world is watching.
You know why you're on trial here?
You all right?
It was until I saw that.
The whole world is watching! The whole world is watching!
Martin's dead.
The whole world is watching!
Bobby's dead.
The whole world is watching!
Jesus is dead.
The whole world is watching!
They tried it peacefully. We gonna try something else.
Rebels without a job.
They're a threat to national security.
It's revolution. We may have to hurt somebody's feelings.
Get on the street! Get on the street!
When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation?
I'm concerned you have to think about it.
Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before.
Libéré, Jean Mineur.
Libéré, Jean Mineur.
Il a pas touché sa fille. Sauf une fois, au chalet.
Sauf une fois au chalet.
Bon, allez, on passe à la BA d'aujourd'hui, qui donc est les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Je pense qu'il est important de présenter le monsieur, car il est peut-être moins connu des non-cinéphiles. Aaron Sorkin, pourtant, vous le connaissez, c'est obligé. Alors, on reprend un peu sa vie depuis le début. Il a commencé avec le théâtre dans les années 80-90. Il a eu des succès à Broadway. Bref, pour l'instant, le parcours classique d'un auteur qui commence par le théâtre. Ensuite, il passe à la télévision. Et il est surtout connu pour...
À la Maison Blanche.
À la Maison Blanche, au début des années 2000, fin 90, début 2000, à la Maison Blanche, qui retrace simplement le parcours, le travail de tous ceux qui bossent à la Maison Blanche.
Ah, c'est une série. Je croyais qu'il était connu à la Maison Blanche.
Ah, mais tu l'as peut-être connu.
Il était très connu à la Maison Blanche.
Moi, à la Maison Blanche, je me rappelle, c'était la série qui passait le dimanche et ça m'énervait parce que c'était avant les dessins animés. Donc, il fallait d'abord se taper à la Maison Blanche avant les dessins animés. Et ensuite, le monsieur a connu une carrière de scénariste. De renom, hein, parce que c'est clairement sa passion. Et un jour, il a touché une machine à écrire, et puis alors là, bim, pour lui, ça a été la révélation. Ce qu'il voulait faire, c'était écrire et écrire surtout des films, des pièces. Et au cinéma, on le connaît surtout pour ses scénarios, donc La guerre selon Charlie Wilson, mais surtout pour The Social Network, pour lequel il a eu un Oscar. Et alors là, c'est la consécration. Il a travaillé ensuite avec Bennett Miller pour Le Stratège,
oui,
entre autres. Et il a aussi écrit le film Steve Jobs.
Oui, oui, c'était trop bien.
Qui était pas mal, de Danny Boyle. Mm. Retour à la télé ensuite pour The Newsroom. Alors là, on a commencé un peu plus à...
C'est la série Apple,
c'est série Apple, ouais.
C'était la série avec le gars de... J'ai oublié son nom. Le gars de Dumb and Dumber. Là.
Jeff Daniels,
qui est super. Et la réal, c'est depuis pas longtemps, en fait.
Oui.
C'est seulement son deuxième film.
Depuis Le Grand Jeu.
Oui, depuis The Great Game.
Voilà, The Great Game, de Molly's Game, en VO, avec la grande, l'unique, le soleil, Jessica Chastain. Et dernièrement, sur Netflix, sorti en 2020, Les 7 de Chicago. Voilà, pour présenter le monsieur, donc, il y a eu un parcours, franchement, c'est un peu l'American Way of Dream.
Sympa.
Pour quelqu'un qui adore écrire, quoi. Commencer par le théâtre et terminer par les Oscars.
C'est top. En plus,
American Way of Dream. T'as mixé American Way of Life et American Dream.
Ah ouais, je suis comme ça, moi.
Mais j'aime bien.
Et donc les 7 de Chicago se retrouvent aujourd'hui en lice pour le meilleur film et le meilleur scénar aussi, je crois. Alors ce qui est marrant, on va attaquer la bière, hein, elle arrive. Mais ce qui est marrant, c'est que le mec, il est passionné en fait d'histoire vraie.
Oui, souvent c'est des faits divers ou des faits historiques. Ouais.
Parce que tous les films pour lesquels il a écrit, enfin surtout je parle de ses plus connus, quoi, Le Stratège, Social Network, Steve Jobs, ce sont des films histoire vraie. Quoi.
Non, mais je le comprends. Ouais.
Il me rappelle Erwan politiquement.
Non, mais je le comprends parce que c'est beaucoup plus facile. L'histoire est déjà écrite.
Bah ouais, franchement.
Juste à mettre ton nom à la fin du scénario.
Franchement, en vrai, et puis du coup.
Quel est votre secret? Je copie-colle.
Quel est ton secret? Je suis abonné au Monde Magazine.
Non, mais on peut quand même dire qu'il a un style très particulier et il fait peut-être partie des rares scénaristes à Hollywood qui ont un style qui est vraiment identifiable, c'est-à-dire que ça parle,
ouais, c'est verbeux.
Énormément.
Ah, beaucoup de dialogue.
Que ce soit ses séries ou ses films, c'est vraiment des joutes verbales, du dialogue qui souvent va très très vite.
Et souvent des procès. Ouais. Le contexte, c'est souvent un procès.
Bah, ça lui va très bien, parce que forcément, c'est débat d'idées, c'est affrontements verbaux.
Éloquence, etc.
Ouais, et voilà, c'est son style, c'est vraiment un dialoguiste incroyable. En réel, bah, il a encore ses preuves à faire parce que le grand jeu c'était sympa, mais la réel est pas forcément marquante.
Elle est anecdotique, quoi. Ouais. C'est fonctionnel, quoi.
Voilà.
En tout cas, voilà, la casquette de réel, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Hein. On va essayer de vous délivrer nos attentes sur les 7 de Chicago. Et avant de commencer, Sabéa, évidemment. Le grand retour, je suis parti le réveiller dans son garage, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus compté de plans. Il n'était pas très content au début, il a commencé à m'insulter, après il s'est calmé, puis finalement il est là, c'est El Calculator qui nous revient.
C'est moi. Salut les hippies.
Salut El Calculator.
El Calculator, non.
Tais-toi.
Alors c'est pardon. Vacances.
C'était bien, je vais y venir après. Dans les 7 de Chicago, il y a 81 plans en 1 minute 28, soit 0,9 plans par seconde.
Au-dessus de la moyenne, dis
une
donc.
Une moyenne très élevée qui montre un rythme effréné digne d'un blockbuster d'action.
C'est pour ça que tu fumes un petit peu là, t'as un peu de fumée qui...
J'ai eu du mal à compter les plans.
Oui, il fume un peu, oui, bah, il a beaucoup travaillé ces derniers temps, je crois, pour préparer cette émission. Ça a été comment les vacances, El Calculator ?
J'ai fait quelque chose qui m'a pris du temps.
Quoi donc ?
Pendant le deuxième confinement, j'ai fini Pornhub.
Il l'a fini.
T'as fini. Mais c'est pas un jeu vidéo.
D'accord.
Ça prend vraiment du temps.
Il l'a complété à 100%.
D'accord. Et t'avais activé les adblockers et l'antivirus sur le...
Je crois, mais il m'arrive de m'éteindre sans raison.
Ah merde.
Il est pourri.
Il est narcoleptique.
Il est pourri jusqu'à l'os.
Il se rallume pas.
Je rallume. Ouais, il y a un truc de la gendarmerie nationale, donc c'est sûrement un virus.
Ah putain, où est-ce qu'il a traîné encore?
Et du coup, on n'aura pas sa nouvelle fonctionnalité.
Mais c'est pour ça que les boutons ils collent. J'arrivais pas tout à l'heure. Rallume-le parce que
tu n'arrivais pas à quoi.
On le redémarre en redémarrage forcé, voilà, sans échec.
Redémarre-le en mode sans échec là.
Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité?
Ah, bah oui,
ah oui, sans transition.
Oui, bah, d'accord, t'excuses pas surtout.
Le
vas-y.
Film dure 2h10 et la BA contient 1 minute 14 d'image. Grâce à cette fonctionnalité révolutionnaire, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,1% du film.
Oh,
c'est très peu.
Ah oui. Étonné, mais plus étonné. 1,1% du film.
Qu'est-ce
dans
qu'on
cette
peut
BA
en tirer?
Qu'est-ce qu'on va en tirer de ces chiffres?
Bah, on n'en voit pas tant que ça.
Non, ouais, on voit pas tant que ça. Bah, merci El Calculator, ça fait plaisir de te revoir en forme et vidé. Enfin, je veux dire...
C'est pire en pire.
Bref, allez, on l'éteint. Éteigne-le.
Évité.
Allez, on attaque la BA.
Comment ça va être super dérangeant, El Calculator. Ça me met mal à l'aise. En fait.
Je vais tout faire, t'inquiète. Je vais remettre des plugins.
Non, mais on peut pas en prendre un autre. Genre, il y a plein de petits jeunes là sur le marché.
Jamais.
Okay.
Faut que tu changes les drivers.
Je vais changer les drivers, je vais réinstaller les modems, je vais pitcher le flex.
Tu vas pitcher le soft.
Ouais,
je vais pitcher le flex.
Bien sûr. Bref, la BA des 7 de Chicago s'ouvre sur les.
7 de Chicago.
Trois coups de la justice.
Et du théâtre.
Et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, un parallèle avec les trois coups du brigadier avant le lever de rideau.
Bravo.
Donc ça, très intéressant.
C'est une métaphore
pour
Pardon.
Pas du tout, c'est simplement.
Ah oui, le brigadier, bien vu. Non, mais ça va beaucoup trop loin.
Non, c'est comme ça qu'on appelle les coups de théâtre, oui. Le coup du brigadier. C'est le brigadier qui tape avant le lever de rideau au théâtre. Là.
Oui.
Apprenez-en tous les jours avec le TABA.
TABA, oui.
Donc sur ces trois coups, quatre images qui viennent rythmer. Et découvrir le public, alors dans son ensemble pour commencer, où on est dehors du tribunal, la manifestation, revendication, à l'intérieur du tribunal, on voit des journalistes, le marteau, et là, un noir, et on revient sur le procès de Borat.
Il était temps.
Monsieur Borat, vous avez libéré une poule dans le métro.
Vous avez enlevé Pamela Anderson.
Il était temps, monsieur Borat. Qu'avez-vous fait ?
Il comprend rien, lui. Il vient du Kazakhstan et se retrouve dans un procès super médiatique. Il comprend pas.
Il sait pas ce qu'il fout là, clairement.
Ouais. Ouais, là, pour le coup, Borat est sacrément dans la merde et on lui demande savez-vous pourquoi vous êtes jugé, monsieur Borat ?
Borat 2. Monsieur Borat.
Pour Borat 2. Cette hérésie, cet affront. Donc, bon, on va arrêter les conneries. Sacha Baron Cohen qui se retrouve face à Richard... pas du tout. Comment il s'appelle Rylance.
Ah. Oui.
Mark Rylance.
Dans un tribunal. Et on lui demande pourquoi il va être jugé. Et là, la pancarte numéro 1 apparaît. The whole world is watching. The whole world is watching.
The whole world is watching.
The whole world is watching.
Rendez-nous Jean Mineur.
Sur lequel s'écrit par le scénariste oscarisé Aaron Sorkin.
Mais ça sort quand ?
Kim. Sacha finira-t-il derrière les barons ?
Oh là là !
Oh putain.
Notre calembour, Erwan, peut-être, Clément,
please.
Ouais, vous m'avez vidé comme quelqu'un qui attend.
J'ai envie d'arrêter là. Donc, cette phrase qui va venir rythmer tout du long, plus ou moins, cette BA de Whole World is Watching. On présente l'oscarisé Aaron Sorkin, scénariste. Donc, comme quoi le mec, il a déjà un petit bagage, hein, rien qu'avec ce petit trait de CV. Comme ça, disséminé dans cette BA. Donc, tout repose sur cette promotion. Hein. Donc, le film est porté par son talent.
On sent que tu ramènes, on fait rien.
Vous m'aidez même pas, vous me regardez comme ça.
Seulement son talent, d'ailleurs.
Moi, j'attends la réaction. The whole world is watching. On a des images de manifs face à des casques bleus, mais qui sont pas si casques bleus que ça parce qu'ils sont carrément armés en fait. Là, on a des gars en rogne. Contre
ils sont en rogne de ouf.
Ils sont en rogne et en bleu.
Ils sont chafouin. Hein. Et ils en ont gros. Hein.
Gros sur la patate là, face contents, à une police qui est plus qu'armée. Des images de cette marche revendicative. Et on peut voir des pancartes. Stop the war. An attack against one is an attack against all.
Waouh. Wow. T'as eu le temps de le lire. Moi, il fallait mettre pause. Hein.
Donc, c'est tiré d'Alexandre Dumas.
Pour reconstituer un peu le contexte historique dans lequel on se trouve, les amis.
Alors, quel est le contexte historique,
oui, vas-y, Erwan.
On sent aux coupes de cheveux que c'est pas alors, aujourd'hui. Hein.
Nous sommes en 1968, année
presque érotique.
Presque érotique. Oui. Un an près, dommage, c'est tout.
Très bien.
Non, on est dans un contexte historique assez particulier, enfin assez tendu. On a la guerre du Vietnam qui sévit depuis quelques années. On a des grosses émeutes raciales.
Kennedy qui vient d'être tué.
Kennedy qui 5 ans auparavant. Voilà, sacré petit cadre.
En gros, c'est la merde.
Un contexte explosif.
C'est la merde. Ça nous rappelle l'année 2019 en France. Hein.
Et il y a l'avènement du mouvement Black Panther aussi.
Oui, ça fait suite à toutes ces violences raciales.
Voilà, pour vous mettre le contexte, en fait, de toute façon, vous avez vu la BA. Hein, je vous rappelle qu'elle est glissée en lien dans la description. Hein, si vous voulez la voir avant, c'est toujours mieux. Donc du coup oui voilà le contexte de toute cette BA qui commence et qui va là partir dans un espèce de rythme musical et c'est pour ça que j'ai choisi cette BA au lieu de l'autre parce qu'il y a une dernière BA en fait qui est sortie avant la sortie du film sur Netflix qui est beaucoup plus longue mais beaucoup plus voilà c'est lourd quoi celle-là elle a un petit rythme musical et j'ai trouvé ça assez sympa.
T'as trouvé ça sympatoche
là, oui. Donc on a plusieurs petits inserts sur des choses de la vie et tout et le bruit va être répété
comme
va être mis en
loop AK-47 par exemple
des choses de la vie
des armes qui chargent
des gens dans la rue quoi normal hein.
Et on a toujours le The Whole World is Watching qui vient rythmer derrière alors sur là je vais vous énumérer ce qu'on va voir alors c'est parti si vous voulez faire une petite musique derrière faites-vous plaisir.
C'est l'énumération. Énumération.
Nous avons une marche de nuit, un projecteur, la porte d'un casier, un petit gars qui lit une lettre assis dans la campagne. On brûle des choses dans un baril, pancarte anti-guerre jetée à l'arrière d'une voiture. Un mec qui dit Martin is dead, des images d'archives de Martin Luther King, gros plan d'une machine à écrire en action. décroche un téléphone.
Ok. Ouais.
Bobby est mort.
Bobby est mort.
Ok. QLF.
Bobby est mort. Image de Robert Kennedy. Donc c'est lui, Bobby, qui est mort. Oui. On accroche le portrait de Nixon dans un bureau. Joseph Gordon-Levitt est triste. Une voiture de police retentit. Jésus est mort. On n'a pas d'image de Jésus.
Non, attends, il revient. Bah, spoiler, pardon.
On n'a pas d'image de Jésus. On ferme un fourgon de police, à mon avis, bien chargé. On a des meetings de militants. Ils étaient pacifiques. On s'arme jusqu'aux dents. Confrontation de la foule et des flics. On va tenter autre chose. Et là, c'est le retour à la case départ. The whole world is watching.
The whole world is watching. The whole world is watching.
Et on fait tout le reste du podcast en musique. Allez, on tourne à gauche. C'est
et
pas
on fait tourner serviette.
Décrocher le pompon.
Avec le non.
On est.
Ça part en couille.
Cette partie musicale, évidemment, qui est beaucoup mieux dans la BA que ce qu'on vient de faire.
Oui.
Donc, où on voit un peu tout ça. On voit un peu le mouvement qui se met en place. Cette révolte contre la guerre du Vietnam. Cette révolte contre ces personnes, en plus, qui vont se faire arrêter une à une. Et puis, on se rend compte que, il y a une petite couille dans le manou, hein, comme on dit chez nous.
Dans le manou.
Dans le paréo, si tu es prêt. La couille sur la chemise, effectivement, il y a un problème. Et puis, ce qui est marrant, après cette petite interlude musicale, c'est qu'on est au retour à la case départ. En fait, on revient dans le tribunal. La pancarte numéro 2 qui nous annonce que c'est d'après une histoire vraie. Hein. Voilà, ça, c'est le credo de Monsieur Sorkin, qui adore faire ça. Et puis, on a un peu de dialogue là, pour continuer la BA. Ces chômeurs rebelles menacent la sécurité du pays. Et là, le leader Borat...
C'est pas Macron qui parle.
Non.
Attention.
On précise.
Le leader Borat, c'est une révolution au risque de vexer des égos. Désolé, les gars.
Le leader Borat.
Le leader Borat.
Et donc, la BA, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que ça va être un film de procès, en fait, hein, essentiellement.
Et elle nous apprend surtout qu'il va y avoir plein d'acteurs connus.
Ah ouais.
Est-ce qu'on a dit un peu les...
Ah, ils arrivent à la fin. T'inquiète pas.
Tu veux attendre la fin.
On pourra refaire une petite partie musicale pour le casting.
Ah ouais.
Mais en tout cas, ce qui est cool dans ce rythme musical, c'est qu'on sent la tension monter, quoi.
Ouais.
Genre au départ c'est un peu sympa, ils sont là, ils font des petits rassemblements entre eux, ils font des petits stand-up, ils sont là, ils rigolent et puis petit à petit hop on voit des guns, on commence à voir des gens gueuler, on voit comment il s'appelle
Eddie Redmayne
qui s'énerve sur un micro, enfin ouais. Qui dit sortez tous
mais ce que je veux c'est votre projet
c'est toujours pas ça. Donc on a des images d'affrontement, on sent que ça va être quand même violent, on sent qu'il va y avoir une ambiance à l'intérieur de ce procès qui va être tendue par les dialogues de Sorkin. C'est clairement ça, parce que ça va pas partir en couille, même si il y a des moments où on voit dans la BA que ça part un peu en couille dans le tribunal. Mais il y aura aussi l'autre partie à l'extérieur, à mon avis, où ça va être le soutien militant qui va venir rythmer le film. Et donc c'est vrai, elle est importante cette petite phase musicale, parce que je trouve qu'en très très peu de temps on nous montre un peu tout ce qu'il y aura, un peu en image subliminale, mais l'idée de mettre ce crescendo musical, c'est vraiment cool. Ça m'a rappelé Money de Pink Floyd.
Moi ça m'a rappelé la BA de Dark Knight Rises.
Ah ouais.
Marche un peu pareil. Bachala.
Ah oui.
Et
oui.
Cette musique là tout le temps et c'était monté comme ça un peu. Ça fait monter la pression.
Moi j'ai hyperventilé.
Moi ça m'a fait penser à Baby Driver.
Ah oui.
Oh. Monter en rythme sur les images, ouais, carrément. En gros, sur l'écran, pour continuer la BA, apparaît le slogan qui nous est scandé depuis le début, le monde entier nous regarde.
Et c'est pas Netflix hein. C'est le procès.
Oui.
Mais tu crois que c'est un message subliminal?
Attends, t'es en train de spoiler
okay,
mon complot.
Tu enlèveras.
Moi, j'ai
parce que
je crois qu'il y a
pas traduit, mais oui, The Whole World is Watching, ça veut dire le monde entier nous regarde. Après la petite question,
même, hein.
La petite question de Joseph qui demandait est-ce que vous attendiez, est-ce que vous espériez une confrontation avec la police, on revient sur Borat qui répond un moment, cher ami, c'est la première fois que je suis jugé pour mes pensées.
Waouh.
Et dans un anglais parfait, pas un accent.
Il s'améliore. On sent pas du tout qu'il y a du Kazakhstan.
Une diction, il doit avoir les petites cocottes lui aussi.
Ouais.
Les petites cocottes. Alors, c'est un livre de phrases de diction, les auditeurs.
Ouais, et qui est sur la table depuis le début. Et
oui,
du coup,
quand Kevin dit la petite cocotte,
il faut expliquer aux auditeurs.
Ce n'est pas une expression qui dit il doit avoir la petite cocotte.
D'accord, en fait, t'as vraiment rien préparé. Quoi.
C'est un livre qui s'appelle Kiki la cocotte et qui nous sert à dire des phrases pour bien articuler.
Voilà, qu'on se dit quelques phrases avant de commencer chaque podcast. Et Kevin nous a dit juste avant de commencer, il n'avait rien préparé. Donc, effectivement, t'es en mode Kobayashi, là, t'es en mode. ouais, en mode usual suspect, quoi. Tu fais en fonction de ce qu'il y a sur la table.
T'as sûr, à un moment, il va parler de 1664.
Il va dire 1664 plans.
Il
ne
refait pas de pub.
Le Bob de Venise.
Le mec a vraiment rien préparé. Il est en short.
C'est vrai, vous ne le voyez pas, mais il est en short.
Il avait un pantalon avant, mais il a mis un short spécialement pour
en short. Non, mais écoutez, bon, je suis contre la tyrannie des pantalons.
La tyrannie des pantalons.
C'est, voilà.
Ouais, donc.
Libérer les gambettes.
Ouais, donc pour reprendre le podcast, ça finit sur une grosse punchline.
Effectivement, oui. Alors là, ouais, grosse punchline, quoi. C'est la première fois que je suis jugé pour mes pensées. C'est fou, ça.
Après, t'as un bon avocat, il peut le niquer direct parce que tu vois, quand tu fais des meurtres prémédités, t'es aussi jugé par la pensée que t'as eue avant de faire ton acte. Donc, limite.
Ah ouais, c'est... t'aurais dû faire avocat, toi. Alors,
je tiens juste à dire que c'est faux puisque Dieu nous juge pour nos pensées constamment.
Excuse-moi, je n'avais pas pensé à la vraie autorité. Pardon.
Repentez-vous. Le titre du film apparaît en énorme sur l'écran sur un dernier de All World is Watching, de Chicago, les 7. Parce que c'est dans cet ordre en fait, de Chicago, les 7. Évidemment, après je remets.
Parce que le lieu est plus important que les gens.
C'est les 7 de Chicago, ouais. Parce que sinon c'est pas ouais. Un titre de film. Et là, attention, pour terminer la BA vraiment, Pockhart Casting et ça va vite.
Oh putain.
Ça va vite.
Tellement de stars.
Attendez, une remarque. Est-ce qu'il y a un nom de femme écrit dans cette liste ?
Absolument pas.
C'est normal, c'est les 60, il n'y a pas de femme.
C'est parti, il y a Abdul Mateen de Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton qui revient de loin, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance et Jeremy Strong.
Abusé.
Il y a Michael Keaton.
Putain, tu le dis trop vite, ça a pris très peu.
J'avais même pas...
Écrit et réalisé par Aaron Sorkin, plus le grand N rouge de Netflix. Et c'est la fin de cette BA, les amis. Va falloir qu'on parle un peu de tout ça parce
bien,
que
on en parle.
Parce qu'on n'est pas con, on a fait nos recherches et puis on a envie de vous parler de cette histoire hein, qui est vraie. Soit dit au passage.
Les expressions.
J'ai cru que c'était un début de phrase, mais c'était une fin de phrase.
J'adore.
Alors, les 7 de Chicago. Bon, avant de parler de l'histoire, j'ai envie de savoir est-ce que ça vous donne envie. Ensuite, on transitera sur l'histoire Wikipédia. Est-ce que ça vous donne envie de voir ce film, cette bande-annonce?
Ah non, c'était ma réponse, oui. Okay. Ouais, j'ai envie de voir. Bon, le casting est cool. C'est vrai que Sacha Baron Cohen, dans un rôle sérieux, c'est wow.
Clément, toi, t'as envie de voir ce film avec cette BA?
Ouais, ça me donne envie. La BA me donne envie, en fait. Contrairement à plein de BA qu'on fait, celle-là, elle donne envie parce qu'elle en monte pas beaucoup. Et en même temps, elle t'installe l'ambiance, le rythme. En général, Aaron Sorkin, c'est assez rythmé. Donc, je m'attends pas à un truc de procès très plan-plan. Je m'attends à un truc avec peut-être des coups de théâtre, etc. Et ouais, ça me donne franchement envie. Même si lui, en tant que réalisateur, je le trouve pas incroyable pour l'instant, mais il a fait qu'un film. Donc, sa qualité de scénariste me donne envie. Le casting est incroyable. Donc, ça fait envie,
Kevin.
Je trouve.
Oui, non, moi j'ai envie de le voir. Après, j'ai
Cronenbourg vers câble. vin rouge.
Alors, câble rouge.
Cacahuète.
En vrai, j'ai envie de le voir, mais j'ai vu l'autre bande-annonce aussi. L'autre bande-annonce donne pas du tout envie, je trouve. Moi, j'ai un peu peur que là, il y a un rythme qui a été mis un peu artificiellement avec justement cette scansion, cette musique, et qu'on se retrouve avec un film qui est malheureusement un peu chiant parce que certes, il fait des dialogues ciselés, mais de ce que j'ai pu voir dans sa mise en scène, il est pas très très fort pour l'instant. Après, peut-être qu'il est meilleur maintenant. Donc, j'ai un peu peur que le film soit très long et très chiant malgré le fait qu'il y ait des bons dialogues, mais je lui laisse sa chance.
Toi, Clément, ça donne envie ?
Ben oui, mais je suis pas d'accord. En fait, cette BA là qu'on est en train de faire ne me donne pas envie. Par contre, l'autre me donnait plus envie parce que elle montre plus de choses qui se passent au procès et des choses assez exceptionnelles qui se passaient pendant ce procès. Ce qui fait que moi, j'adore les films de procès et là, j'ai l'impression que ça va être un film de procès assez exubifiant. Parce que ces événements sont exubifiants.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc, ça me donne très envie pour ça. Là, la BA en question, je trouve qu'elle est un peu trop rapide. Elle me fait pas trop d'effet. J'arrive pas à savoir comment c'est dosé entre intérieur procès et extérieur manif. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est l'aspect procès. Vraiment, j'aime bien les films de procès.
Ouais,
vous aviez pas compris.
Ouais, j'aime bien aussi.
On a vraiment l'impression que c'est un film vraiment où le procès va être en fait en second plan, où ça va vraiment être juste le
j'espère
le fil conducteur.
Pas.
Ah, j'espère.
Et en fait, on va avoir que
des flashbacks. Avec des flashbacks et un procès.
Moi, je l'espère presque. Parce que
c'est possible parce que faut savoir que dans The Social Network, il y a quand même 3 procès.
Oui.
Ouais.
Trois affaires qui sont entremêlées dans la narration. Donc.
Oui, mais là, je pense que ça va être différent.
Oui, et puis ça le rythme est super bien.
Pour moi, il y a toutes les raisons que ça soit différent parce que dans les autres films dont vous parlez, oui, en effet, c'est un arrière-plan. Là, pour le coup, ça traite vraiment de ça, du moment du procès. Et comme voilà, il y a eu de l'action pendant ce procès, il y a eu pas que des mots.
Et
quoi.
Oui, et bah, parlons-en, voilà. Parlons-en.
Historiquement, ouais.
Parlons-en d'ailleurs, mots. Justement.
Et toi, Romain, ça te donne envie ?
Oui, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie, cette BA, mais j'ai quelques réticences aussi sur le fait que, ben, évidemment, elle est ultra rythmée et que le film ne sera pas aussi bien rythmé que ça. Par contre, j'espère trouver quand même un bon rythme autre. Il sera forcément autre que la BA, mais ça me donne envie. Voilà, ouais, objectivement, ça me donne envie. Mais c'est parlons-en essentiel. De ce procès, oui, parce que oui, ça nous montre quand même beaucoup de choses. Puis nous, on va essayer d'élargir un peu la question. Voilà, on va parler quelques minutes de cette histoire qui a retourné les États-Unis à la fin des années 60, les 7 de Chicago, de Chicago 7, et qui raconte l'histoire de ce procès, de ces 7 personnes qui ont été jugées avec des manières plus ou moins correctes à un moment où le monde partait un peu en steak. Alors parlons-en, qu'est-ce que ça raconte vraiment en gros?
Non, ce ouais, film. C'est des. Donc là, on est clairement sur des j'allais dire des philosophes, des penseurs, enfin des personnalités politiques, j'ai envie de dire, assez connues aux États-Unis à l'époque pour leur coup d'éclat. C'est des pacifistes, tous des socialistes, communistes ou anarchistes, qui en fait, voilà, luttent quotidiennement contre la guerre du Vietnam, contre les violences raciales. Qui sont tous très proches du coup du mouvement émergent des Black Panthers et du coup en fait qui après beaucoup de d'apparitions publiques de coups d'éclat finissent par en fait rassembler toutes les mouvances en fait parce que du coup dans les 7 personnages il y en a 2 Abby Hoffman et Jerry Rubin en fait qui ont créé les Hippies, donc qui sont les Hippies mais le Youth International Party qui était un mouvement hippie mais politisé essayant de faire avancer les choses et en fait du coup ils se rassemblent tous pour marcher vers la convention démocrate de 68.
Ouais, tout est parti de là en fait. Ouais.
Tout est parti de là, donc c'était pour normalement c'était pas la réélection de Johnson parce que Johnson était déjà réélu mais en gros voilà, c'était la convention démocrate qui allait choisir leur
nouveau candidat.
Leur nouveau candidat exactement. Et du coup voilà, ils marchent vers l'endroit où ils faisaient ça, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est peut-être
ouais. L'International
c'est à Chicago, mais je
Amphithéâtre.
Sais pas. OK.
Voilà.
Et c'est parti en vrille avec
c'est
la
parti
police.
En vrille, ouais.
Voilà.
Parce qu'il faut souvent préciser qu'il y avait aussi des policiers qui étaient jugés à ce procès-là.
Voilà, c'est ça. Et a priori, avec du recul, maintenant, dans les années 2000, on peut dire très clairement que c'est plus la police qui a fait du zèle que l'inverse. A priori.
Mais ça ne ferait pas un peu écho avec ce qu'on vit aussi,
totalement,
nous, dernièrement?
Totalement. Oui, on est sur de la violence policière, on est sur toutes ces questions-là. Donc oui, c'est à fond dans l'actualité. Je pense que ça sort pas par hasard.
Je parle pas qu'en France, à travers le monde.
Oui.
Bah, en plus, aux États-Unis, il y a eu quand même une grosse vague dernièrement de manifestations populaires aussi. On n'est pas le seul pays où ça commence pas, où ça bouge. Donc forcément, ouais.
Et il y a notamment un membre des Black Panthers, enfin qui était un des cofondateurs des Black Panthers. J'ai oublié son nom. Je sais
Bobby
pas si
tu l'as. Seale.
Seale, qui a été jugé, qui est donc le 8e en fait de la bande, mais qui a été jugé à part, déjà très bizarre, et qui a été bâillonné au bout de quelques jours de procès parce qu'il se rebellait trop contre le juge. Je pense que le juge va être très important dans le film. Il est joué par Frank Langella, qui est un très bon acteur. Et donc il a été bâillonné, ce qui a. Enfin, c'est une image choquante
de
voir un noir ligoté, bâillonné dans une salle de tribunal. C'est quand même. Voilà, donc je pense que.
Dans une salle de tribunal, ce qui est encore pire. C'est vrai que quand j'ai lu cette anecdote,
c'est hallucinant.
Donc, est-ce que ça a monté dans le film à votre avis?
Évidemment.
Je pense que oui.
Bah,
On le voit d'ailleurs.
On voit les images dans l'autre bande-annonce.
C'est le premier nom qui ressort dans les
Martin is dead.
Dans les
Jesus
acteurs,
is dead.
Oui, et d'ailleurs, lui, il dit que le pacifisme, en gros, a fait son temps et que tous les gens qui étaient pacifistes sont morts et qu'il est temps de passer à une action peut-être plus violente. Donc, est-ce qu'il était plus violent que les 7 autres? Enfin, voilà, ça va être intéressant aussi de voir peut-être des tensions entre eux. Je sais
pas. Peut-être pour ça qu'il n'est pas dans les 7, justement, parce qu'il était dans un autre groupe, en fait. Qui était avec des méthodes différentes.
Ouais, c'est ça, les fameux panthères noirs. Et on l'a pas dit hein, plus tôt, mais on est juste après la mort de Martin Luther King et de Malcolm X, donc ça fait quand même deux personnalités.
Et de Robert Kennedy.
Et de Robert Kennedy.
Bon, bref, tous ceux qui étaient bien, quoi. Et Lavenmond Nixon à ce moment-là, donc c'était pas le bon moment pour un procès de cette ampleur. Et puis ça s'est produit, quoi. Et c'est ce que va nous montrer le film.
Alors juste attends, parce que j'ai quelques petites anecdotes là très marrantes
mais
que j'ai trouvées sur les scènes.
Marrantes.
Alors on a par exemple donc Abby Hoffman qui est joué par Sacha Baron Cohen. Voilà, petit fun fact, qui a interrompu le concert des Who à Woodstock en 69. pour dire que en fait il y avait Sinclair, un auteur.
Sinclair le chanteur. Sinclair le chanteur.
Comme ça.
Sinclair qui joue à 5 pâtés de maison là. Allez-y, hein, on s'en fout de ça.
C'est celui qui était dans Danse avec les stars. Non, je sais plus. En gros, qui a interrompu un concert des Who pour dire que un auteur était mis en prison pour ses idées, tout ça.
C'était le Twitter de l'époque.
Et le personnage, enfin la personne apparaît dans Forrest Gump.
La vraie personne ?
Non.
Ah.
Il est joué aussi par un acteur.
Ok.
Voilà. Ah oui. Ah.
Et en fait, c'est quand il retrouve Jenny dans les années hippies là. Il est celui qui l'amène vers Jenny, c'est Abbie Hoffman.
Ah ok.
D'accord.
Donc Abbie Hoffman, qui est vraiment une personnalité très connue aux États-Unis. Pour certains, c'est le diable. Pour certains, c'est Bernie Sanders avant l'heure quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jerry Rubin, qui est le deuxième cofondateur des hippies avec.
Ça, c'est des gars qui font partie des
avec Abbie Hoffman, ouais, tout à fait. Ouais. Qui, lui, en fait, est un des premiers investisseurs d'Apple.
Putain, incroyable. Voilà.
En fait, il a complètement changé, il a complètement vrillé juste après toute cette période. Et en fait, il a... Alors, je sais, les hippies, non, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait, c'est la communauté des hippies qui sont... qui ont basculé vers le
YUPI, je crois.
Ouais, c'est les yuppies.
Les yuppies.
Voilà, qui ont profité un peu et qui se sont dit, bah voilà, le monde a changé, il faut qu'on... Enfin, le monde change, il faut qu'on l'accepte et qu'on aille avec... Et en fait, qui font partie de, bah, des... Bah de tous les fondateurs de la la façon de penser Silicon Valley,
okay.
C'est ça, les YUPI, les Young Urban Professionals.
Qu'est-ce qu'on a d'autre, parce qu'on a juste deux autres trois trucs rigolos. Hop Tom Hayden, qui est joué par Eddie Redmayne, lui il a fait une carrière politique, mais surtout il a été marié 17 ans avec Jane Fonda.
Okay.
Oh, voilà. Tout classe. Est lié.
Jane Fonda qui passe sa vie à se faire arrêter. D'ailleurs.
Qui est aussi une grande activiste.
Ouais. Mais oui, ouais, maintenant elle est dans la rue.
Ouais.
Je veux dire qu'elle
est pas à la rue,
là,
mais
elle est en live sur Twitter, elle est dans la rue.
Non, mais ça devient presque un mème.
Sympa,
Jane Fonda
c'est
qui se fait arrêter.
Voilà, c'était rigolo.
Non, mais oui, ça a l'air d'être une histoire.
Allez sur Wikipédia, c'est intéressant.
Moi, ça me rappelle un peu quand on avait fait The Irishman, parce que ça soulevait aussi un trait d'histoire des États-Unis, typiquement américain, quoi. Donc moi j'étais pas au courant, et puis là c'est la même chose pour les sets de Chicago, et ouais. Ça me donne vachement envie de voir le film du coup, de découvrir un peu ça.
Ouais, il faut savoir, tous ces événements en fait ont été un peu le déclencheur de mai 68.
Ok.
Ouais, bah
c'est
une inspiration
c'est
pour les jeunes français.
Oui, tout à fait. Bah ouais. Surtout à une époque où il n'y avait pas tous les réseaux et tout, donc... pour dire à quel point ça a fait du bruit, quoi.
Et en effet, c'est peut-être pas un hasard si des films comme ça ressortent aujourd'hui.
Non, mais non. On a tout fait sens. Ça fait sens. Hein.
Laissez-vous inspirer. Descendez dans la rue.
Je veux dire, à mon avis, ouais,
on va
se prendre une bonne claque dans le film, parce que il y a encore des sujets qui sont encore ouverts et qui existent toujours, et ça fera écho forcément avec des choses qu'on a vécues ici ou qu'on a vues ailleurs.
Enfin, c'est le trop-plein du système.
Donc, ouais. Bon, en tout cas, ça me donne vachement envie de le voir. Bon, ça, c'est mes attentes. Mais quelles sont les attentes des autres personnes sur les internets? Hein,
ben, on n'a qu'à regarder les commentaires.
Parce qu'ils commentent par là, ils commentent ci, ils commentent ça. Mais... Et le comme ci, comme ça, ça donne quoi? Allez hop!
Comme ci, comme ça! Comme ci, comme ci, comme ça!
Les commentaires des internets!
Comme ci, comme ci, comme ça!
Les commentaires des internets!
Le comme ci comme ça qui nous permet de savoir ce que pensent les internautes sur la blogosphère, n'est-ce pas? Clémence qui nous a préparé ce petit medley de commentaires. Qu'as-tu vu sur les internets?
J'ai vu des gens très enthousiastes. J'ai vu des gens qui se sont hypés pour un casting, comme Margot Fossé. Margot Fossé qui dit « Ça a l'air trop bien !» et « Casting de folie !» Voilà.
Avec autant de « i ».
Ouais.
Ou encore
Thibaut Marère. J'adore les noms des gens.
Ça me fait marrer.
En plus, on les affiche, quoi.
J'avoue.
Sacha Baron Cohen dans un film autre que débile, je veux vraiment voir ça.
C'est vrai, c'est un des arguments.
Non, c'est l'argument que j'ai donné.
Il paraît qu'il est très bien dedans.
Mais c'est un bon comédien. Hein.
Par contre, film débile, Aligi, c'est pas débile.
Bah, je suis désolé, mais il a fait aucun film débile.
Bah ouais.
Il y a un petit jugement.
Il y a un petit jugement, effectivement.
Ouais, en effet.
Quoi d'autre?
Alors là, vous allez avoir un coin bouché.
What?
Je vais vous en boucher un coin.
Oh la vache.
Vous allez avoir un coin bouché.
J'ai trouvé un commentaire de Marcel Vincent.
Non.
Mais ce n'est pas notre Marcel Vincent, je pense.
Si tu nous écoutes.
Nous connaissons un Marcel Vincent et un autre Marcel Vincent a commenté. J'aurais préféré une version documentaire, mais bon, c'est déjà bien.
Ah, parce que Marcel Vincent l'a vu déjà?
Je sais pas.
Les envahisseurs.
Ah, bien joué. Ça, c'est
coucou,
la petite
Marcel.
Référence aux inconnus. D'accord. Okay.
Bon, j'ai deux derniers commentaires qui sont un peu rigolos. Amy de la laine. De la laine.
De la laine.
De la laine. L-A-I-N.
L'apostrophe.
En un ou deux.
Amy de la laine.
La bonne haleine ou la laine douce?
Amy de la laine.
Arrêtez de commenter les noms des gens.
Mais arrêtez de commenter les
commentaires. Je ne le dirai plus.
En fait, les blagues sont plus drôles que les commentaires. C'est pas de notre faute.
Elle a écrit « Quand tu lis trop vite et que ça donne, en 68 à Chicago, 7 personnes sont accusées de constipation. Vais me coucher, moi.
Hein. » J'adore, mais tu vas faire venir dans cet ABA.
Grand pouvoir que
non, mais
donne
ça,
aux gens
ça c'est
sur
du
Amy
tout craché.
Sur Internet, tu peux tout faire, quoi. Ce genre de commentaire. Et après, elle est partie dormir.
Oui, elle a dit « Vais me coucher, moi. »
Et t'appelles ça les selles de Chicago.
C'est nul.
Au secours. Et un dernier, Romain Museau, qui je trouve a du nez.
Romain Museau.
Et qui a du nez. Hein, c'est...
Il a du nez parce qu'il a écrit « Il pue l'Oscar ce film, ou au moins la nomination. »
Attends, il s'appelle Romain Museau, il a écrit « Il pue l'Oscar.
» Mais justement, ils
les
sont
gens
bien.
Sont géniaux, on vous aime.
Mais ouais, il peut que sentir.
J'avoue, continuez à commenter. Allez-y.
Gardez vos places.
Pensez à nous quand vous commentez.
Oui, pourquoi pas. Peut-être un jour.
Je voudrais de votre gueule.
Mais non, mais c'est trop drôle.
Vos commentaires seront remontés par Clémence et puis voilà.
Oui, mettez des commentaires vous-même, la team. Là.
Hashtag fait
ta BA. Il n'y a pas de souci.
Bien sûr.
Moi, je te stalk. De toute façon, un jour, tu verras. Si tu ne trouves pas une phrase que j'ai mise, ça voudra dire que.
Mais je suis sûr que tu cherches les commentaires aussi.
Non, j'ai pas que ça à foutre. T'as vu tout le travail que j'ai à abattre là chaque semaine?
Il en levant son verre.
Il doit abattre un
travail. Il avec son verre de rouge.
Là, vous nous verrez. Bon, bah, merci Clémence pour le comme ci comme ça. Et puis, allez, pas de transition, le fait en titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Oh, wow, attendez, je suis pas prêt. Okay.
Oh la vache.
Mais le mec est pas prêt depuis le début, tu sais, qu'on a enregistré là.
Ça a commencé.
La crédibilité.
Il est en short, mais il est en short maillot. C'est-à-dire que.
En maillot de bain.
Kevin, il a lâché l'affaire.
Il n'y a pas un étang à 500 km à la ronde et le mec, il est déjà. Il manque que les claquettes.
Je suis en vacances, moi, les gars. Excusez-moi.
Bon, alors, le fait ton titre. Le fait ton titre, c'est oui. Quoi?
C'est une rubrique où on refait le titre du film parce qu'il est pas bien.
Voilà, ouais, c'est oui. De Chicago, c'est classique. On n'aime pas ça,
on a des meilleurs rôles.
C'est une rubrique où on se déchire et on déchire. Ouais.
Je préfère ma description.
C'est l'oiseau qui passe là.
Corneille.
Alors, qui a des titres?
Tout le monde. Hein, tout le monde.
On est obligé.
Oui, de toute façon, on n'a pas le choix.
Sinon, c'est la fessée.
On n'a pas le choix, on se fait
des revendications.
Oui. Ça bien.
Allez. Arrêtez de nous demander des titres.
Je veux arrêter d'être discriminé parce que je porte un short.
Bah ouais, mais en même temps, t'as vu la gueule de ton short. Alors, ensuite.
En plus, il remonte beaucoup là. La suite. On voit des choses.
Qui commence? Levez la main.
Moi.
Allez, Clément. C'est toujours lui qui commence.
Alors, j'ai un titre. Et j'en ai un de secours, mais vas-y, on va le tenter. Donc, mon titre, c'est Les 5 de Chicago. Mais il n'est pas drôle s'il n'y a pas la catchphrase qui est Ils ont les Bulls.
Ouais.
C'est donc un jeu de mots avec les Chicago Bulls.
C'est juste pour toi, Erwan.
Merci. Non, mais moi, je suis content.
Le pire, c'est que hier,
en plus, c'est ton petit t-shirt Lakers. Ça.
Je cherchais un titre sur les Chicago Bulls et je me suis dit
Chicago Blues.
Une équipe, c'est 5. Il faudrait faire un truc avec les 7 moins 2.
Fait,
nana.
Ouais.
Et ça, c'est un truc pour Clément. Ben voilà, heureusement, je ne l'ai pas fait. Hein.
J'aimerais bien rebondir avec mon seul titre parce qu'il est en lien avec ça.
J'en avais un deuxième.
Est-ce qu'il y a
de basket, c'est le moment de rebondir.
Ouais, non, mais c'est. Je prends la balle au rebond.
Vas-y.
Le titre, c'est Chicago Bulls, simplement, qui va avec la catchphrase 7 places au premier rang.
Alors moi j'aimerais rebondir.
C'est plus théâtre pour moi.
Pour l'instant la corneille. Hein.
Ouais. C'est les rangs du tribunal.
Alors,
enfin, bande d'acteurs.
Moi j'aimerais rebondir parce que j'ai aussi un jeu de mots avec Chicago Bulls.
Ok.
Ah mais tout le monde a
dit Chicago Blues.
Sauf Erwan.
Non.
C'est Chicago Bou du verbe bouillir.
Il y a pas de catchphrase.
Il a vraiment rien.
Je t'annonce que tu vas pas le prendre, Kevin,
oh
aujourd'hui.
Vache.
Il a enlevé les 7-2, il a mis 2 et il a fini. Il s'est mis en short après.
Il s'est dit, je vais gagner avec ça. C'est sûr, je vais
gagner. Arrêtez de l'humilier.
On l'humilie pas. C'est pas notre faute s'il est en short.
En plus, t'es en short.
Mais c'est parce que ça boue, parce que c'est la merde. Alors, c'est chaud, quoi.
C'est un jeu de mots.
Franchement, Erwan et Romain, vous avez un boulevard pour gagner, quoi.
Oui, tu vas voir qu'ils vont
vous êtes obtus. Hein.
Bah moi, je suis le seul qui parle pas de basket.
Après, je vois les selles de Chicago. Et puis,
attends, c'est peut-être la première fois que Erwan va gagner. Vas-y, Erwan, on t'écoute.
Moi, j'ai les pacifistes à Chicago. Le monde entier nous regarde sur W9.
Aïe, bon.
J'ai la ref, c'est marrant, mais si tu l'as
pas,
j'ai
la.
The world watching. Donc là, on est dans un contexte Big Brother, machin. Et faut voir qu'à un moment, c'est tous des pacifistes. Ils ont des petites chemises à fleurs, machin.
Et du coup, ça te fait penser à la télé-réalité.
Je sais pas quoi.
Ok.
Ouais.
T'as quoi d'autre?
C'est tout.
Non.
Bah, j'avais Chicago Blues, mais je l'ai déjà dit 40 fois depuis que je suis arrivé.
Chicago Blues, j'aime bien.
Chicago Blues.
Je dis mon titre de secours.
Ouais, vas-y, Clément.
Attends, faudrait ajouter une catchphrase pour Chicago Blues, mais pas l'équipe de basket.
Tu vois, ouais.
Ou un truc comme ça.
Ils ont les Bulls.
Cette
Chicago
place,
Blues,
cette
ils ont les Bulls.
Au premier rang.
Ils ont les Bulls. Ah, c'est bon ça.
Mais pas l'équipe de basket. Ouais.
J'aime bien.
Je retiens.
Oui. Alors, moi, mon titre de secours, mais il marche que parce qu'on va faire le match retour de manque. C'est subtil. C'est d'Akab à Akab. Pourquoi ? Parce que dans Manque, il dit
je vais chasser.
Je suis Akab, je vais chasser la baleine blanche parce que Akab, c'est le nom du mec dans Moby Dick. Et là, c'est Akab, All Cops Are Bastards, qui est un slogan anti-flic. Donc, ça s'écrit A-C-H-A-B à A-C-A-B.
Moi, je
c'est très intelligent, mais les gens
ça
ne comprendront jamais. Donc,
ça ne marche pas l'écrit.
Parce qu'il n'y aura pas Manque sur l'affiche.
Voilà. On va perdre les abonnés. Là.
C'est pour ça que j'ai dit que c'était de secours.
Mais moi, je m'abonne à toi. Par
merci,
contre, je suis assez.
Alors, moi, j'ai un titre, mais je vous en prie de pas trop hausser la voix après que je l'ai dit. Parce qu'il y a une catchphrase entre parenthèses. Enfin, il y a un complément de titre entre parenthèses.
Vas-y.
C'est Yellow Jacket Origins, Very, Very Far Origins.
Non, et Erwan, tu as gagné.
Excusez-moi. Le mec, il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure sur mon titre et il sort ça.
En fait, plus alors, ça avance.
T'as remarqué que personne n'a fait de référence aux Gilets jaunes parce que c'était trop facile et trop nul, quoi.
Bah, oui. Je vous emmerde déjà pour commencer.
Tu crois qu'on y avait pas pensé ?
Yellow Jacket.
Tu crois ? Eh, j'ai un titre de secours. C'est Yellow Jacket.
Bâtard.
Alors, moi, je vote pour Chicago Blues.
Bah, là, on est sur Chicago Blues. Hein.
Non, oui, ils ont les Bulls, c'est un peu partagé parce qu'il y a une catchphrase trouvée par
Chicago Blues, ils ont les Bulls.
Ce sera pas notre meilleur, les auditeurs.
Eh ben, bravo, Erwan. C'est son premier fait ton titre.
Merci.
Oui, bravo.
Oh, c'est trop d'émotion.
Bravo.
Bon, bah, je prends ma retraite.
C'est le moment.
Je m'arrête sur une victoire.
Il part en héros. Chicago Blues, ils ont les Bulls. C'est notre nouveau titre pour les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin qui est déjà sorti parce que oui, on adapte notre programme hein, en fonction de, vous savez, des cinémas fermés. On va pas répéter ad vitam aeternam ce problème là, donc forcément on a un programme qui est un peu chancelant. Le film est déjà sorti, vous pouvez le voir sur Netflix et puis nous on va se le regarder dans la semaine et puis vous en faire un match retour. Voilà, et en parlant de match retour,
oh, et qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, on reste sur Netflix, on zappe pas. Et on va juste du côté de Manque de David Fincher. C'est parti. DJ,
get that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul.
Le match retour de Manque de David Fincher. Si vous avez écouté notre épisode précédent, on s'est fait la BA. Et aujourd'hui, bah, on va savoir si sa BA elle a été fidèle ou pas au film que nous avons vu. Et puis on va vous donner nos avis aussi, parce que ça suffit pas de dire oui ou non. Donc, pour vous résumer un peu l'histoire qu'on s'était imaginé dans l'épisode précédent en se faisant la BA, bah, y a pas vraiment d'histoire, quoi. C'était un peu compliqué de se faire des histoires, on a bien déliré sur certains moments et tout, mais difficile de se faire une histoire d'un biopic étant donné que tout était déjà écrit sur Internet. Donc on a parlé de Mankiewicz, le frère, attention, pas le réalisateur, mais le scénariste, hein, on reste dans les scénaristes aujourd'hui. Scénariste, Netflix, Oscar, tout est lié.
Putain, c'est fou.
Mais oui, c'est les sept liens. Et du coup, ben, on va un peu zapper cette histoire d'histoire imaginée, là, et puis on va passer directement au résumé de l'histoire. Et comme Erwan, c'est toi qui as gagné pour la première fois le fait ton titre, tu peux désigner pour la première fois quelqu'un qui va résumer.
Bravo.
Eh oui. Le pouvoir. Tu sens le pouvoir là ?
Putain, je l'ai. Attends, je vais profiter un petit peu.
Ça implique une grande responsabilité en plus.
Et du coup, je vais le donner à mon némésis de toujours, Kevin.
Oh, putain, j'ai peur. Là, il est dans la merde.
Bah non, bah en fait, alors Manque, c'est ni plus ni moins que le biopic du scénario de Citizen Kane.
Merci, c'est bon.
C'est parce que c'est vraiment ça, sous le prisme de la vie, enfin d'une période de la vie de son scénariste, donc Manque, Mankiewicz. Comment il s'appelle déjà ? Hubert ?
Herman.
Ouais, j'ai toujours du mal. Et voilà, donc ce sont des événements de sa vie qui conduisent à la création de ce scénario pour le conte d'Orson Welles. Et voilà, donc il y a plein de petites péripéties construites en flashbacks.
Ouais, essentiellement parce qu'il est, il a eu un accident.
Accident de voiture, donc il écrit dans son lit en buvant de l'alcool.
Et il faut dire qu'il a très peu de jours. Et
il n'a pas beaucoup de temps pour
il
le faire.
Il a deux semaines, je crois.
Voilà. Oui, c'est 30 jours. Une vraie course contre la
montre. 60. Voilà. Au début, il a 90 jours et ensuite jours, il en a 60.
3 mois, 2 mois, 1 mois.
3 mois ?
3 mois. Donc voilà, sans spoiler, c'est grosso modo ça l'histoire.
Ouais.
T'en sors bien.
C'était bref.
Après, t'as pas gratté quoi. t'es pas allé en profondeur parce qu'il se passe plein de trucs.
Bah bien sûr qu'il se passe plein de trucs, mais je vais pas te faire un résumé détaillé de tout ce qui se passe.
On peut présenter l'aspect technique qui rend hommage à l'époque.
C'est un film qui rend hommage à l'époque, donc c'est un film qui est en noir et blanc, qui est construit en plus avec une mise en abîme constante. Les flashbacks sont annoncés avec des comment appelle-t-on ça, vous, les scénaristes, des didascalies, pas des didascalies, des
flashbacks sont annoncés,
des indications de scénario.
Oui, c'est marqué intérieur nuit, tac, 1934.
Oui, c'est des, il y a des cartons.
C'est des cartons, voilà, comment dire ça. Donc c'est mise en abîme du personnage, mais aussi du scénario en lui-même, donc c'est très intéressant. Voilà, je sais pas trop quoi dire.
Un vrai travail sur la reconstitution du noir et blanc, c'est pas simplement ils ont passé le film en noir et blanc.
Oui, non, c'est un noir et blanc natif.
Le son aussi est travaillé à l'ancienne.
Il y a un vrai rapport au noir et blanc qui se rapproche de la qualité de la pellicule de l'époque.
Pardon. Donc, c'est assez expressionniste aussi, je trouve.
Donc, voilà, et puis le son aussi, qui au moins au début, j'ai commencé à régler ma télé, mais je me suis dit, arrête de con, évidemment que c'est fait exprès. Donc le son qui est un peu étouffé, quoi, comme à l'époque. Quoi.
Ils sont allés jusqu'à mettre aussi des fausses brûlures là, sur la pellicule.
Oui, des fausses brûlures de cigarettes.
Oui, on en reparlera. Ouais.
Donc on va en parler tout de suite en ouvrant la page du Doudou Padouille, hein, déjà, pour savoir si la BA, elle a été fidèle à nos attentes, et puis ensuite on va vous donner nos avis. Allez, le Doudou Padouille.
C'était une douille.
C'est pas une douille.
Le douille ou pas douille qui permet de relier la BA au film. Était-ce fidèle, était-ce pas fidèle? Douille ou pas douille? Simple est la question. Clémence, douille ou pas douille?
Bah, douille très positive, parce que j'avais un peu envie de voir le film, mais quelques appréhensions avec la BA. J'avais peur que ce soit pompeux et tout, dû au noir et blanc, etc. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je ne me suis pas ennuyée un instant.
Ah, cool. Kevin, douille ou pas douille?
Moi je dirais pas douille, parce que de toute façon je m'attendais à quelque chose de plutôt bien. J'avais juste une petite crainte sur le fait que ça soit un peu imbitable par moment, et en fait je trouve que c'est pas trop le cas, donc je dirais que dans ce cas là c'est peut-être une petite douille positive de ce point de vue là, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon film qu'on a vu là, et ça fait plaisir.
Ouais. Clément?
Ouais, je dirais pas douille aussi. Pour moi c'est vraiment ce à quoi je m'attendais en voyant la BA, c'est une tranche de vie de ce scénariste dans une certaine tradition hollywoodienne. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très bien fait et je me suis pas ennuyé non plus.
Erwan?
Bah, pas douille. J'ai envie de dire pas douille négative. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, j'ai vu une bande-annonce en noir et blanc.
C'est midouille-midouille, quoi.
Voilà, midouille-midouille. En fait, je m'attendais à être surpris, j'ai pas été surpris. Donc, ça reste un film en noir et blanc où ça parle beaucoup. Quoi.
Ouais, un peu douille quand même, du coup.
Bah, non, parce que.
C'est pas ta tasse de douille, quoi.
Je m'attendais à ça, je m'attendais à être surpris, j'ai pas été surpris, donc pas douille, mais négatif.
Ok, d'accord, voilà. Oui, ok, je vois, t'es mitigé, quoi.
C'est une padouille.
Le cul entre deux douilles.
Pas douille.
C'est ça.
C'est toi, Romain.
Non, mais je. Allez. Je vais
les pieds dans le plat.
Ah, les pieds dans les sabots là. du coup, ouais, douille. Ah, douille. Je suis désolé, pour moi, j'ai pas passé un bon moment. La BA me vendait du rêve. J'avais hâte de découvrir cette histoire. On en avait parlé dans l'épisode précédent. On avait peur d'être largué par rapport aux références de l'époque. C'est nos grands-pères et nos grands-parents qui étaient contemporains de cette époque-là, donc évidemment nous ça nous parle pas. C'est beaucoup de name dropping et on avait peur de ça, et en fait le film pour moi c'était que ça, et j'étais un peu perdu, et je sais pas si parce que je l'ai vu tard ou j'en sais rien. Puis je l'ai vu il y a longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on a enregistré l'émission d'avant au mois de novembre, donc je l'ai vu à sa sortie, moi. Putain. Vous l'avez vu hier, donc oui. Je l'ai un peu oublié, voilà. Donc douille.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas deux teams là?
En fait, c'est vraiment.
On a un peu de team.
On a un peu de team.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Romain, c'est vraiment le type de film, et ça m'arrive souvent, c'est vraiment le type de film où en fait tu comprends rien pendant tout le film et tu passes plus de bon temps sur Wikipédia après le film que pendant le film, en fait.
Oh non.
Pas forcément de bon temps, mais où tu te dis, ah d'accord, donc lui c'est lui il a fait ça, machin.
Et je crois qu'on n'a pas du tout la même perception.
Je me suis baladé sur Wikipédia, j'ai fait du clic, et j'ai fait plein de pages et j'ai appris plein de choses, mais par contre pendant le film, bah j'étais là. Oui,
bah, en fait,
tout compris,
film, moi, techniquement, j'ai rien à dire. On peut déjà balayer ça d'un revers de la main. Techniquement, il n'y a pas de problème. C'est génial. Je trouve qu'il y a une très belle reconstitution. C'est un très bel hommage à comment étaient faits les films à l'époque. Beau travail sur la lumière. Les acteurs sont magistraux. Hein. Il n'y a aucune fausse note parmi tous. Mention spéciale à Charles Dance, Tywin Lannister, là, que j'aime beaucoup. En plus, je me rappelle, juste avant, je l'avais revu dans Last Action Hero.
Tu veux dire le premier ministre dans Edgy?
Oui, voilà.
Exactement.
Et en fait, voilà, ce qui me fait rire, c'est que ce mec, en fait, il est sous tous les registres, il est excellent. J'aime beaucoup Charles Dance. Et je le trouvais très bien, là, en Hearst, dans ce film. Donc, oui, l'histoire, en gros, du film, elle est bien, mais trop alambiquée, trop perdue, trop de détails. Mmh. Pour moi, c'est un peu de la soupe, quoi, et ça m'a lâché. C'est...
Alors, attends, est-ce que je peux faire la transition
parce
que...
Quoi,
je voulais rebondir sur Hearst. Ouais,
je vais vous laisser vous exciter, et ensuite je ferai mon éloge ultime de ce film à la
parce
fin.
Parce que tu parles de Hearst, et justement, ça me fait penser qu'il y a un gros problème scénaristique, je trouve, enfin, en tout cas, qui est mal expliqué. Parce qu'en fait, quand tu vas voir justement la page Wikipédia de Hearst, tu vois que c'est un peu une enflure, quoi. Là, dans le film, il est presque présenté comme un homme classe, sympa, un peu en retrait. Cool quoi, et du coup bah en fait vu que c'est le enfin tout le film en fait Citizen Kane est basé sur ce personnage, on voit comment Kevitt il a un problème avec
moteur,
lui tout ça, mais là en fait
de sa création,
dans le film, voilà, et dans le film je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il en veut pour ce mec, qu'il en veuille à Louis B. Mayer, ça je peux comprendre parce que c'est une ordure dans le film, c'est une vraie ordure. Et en fait, c'est marrant qu'on montre que son sous-fifre est une ordure, que lui est un peu en retrait dans l'histoire et qu'en fait, c'est lui l'objet de Citizen Kane. Il y a un truc que je comprends pas. C'est mal
ce
amené,
qu'il incarne
en fait,
politiquement.
Oui, mais c'est mal expliqué. C'est pas expliqué du tout, en fait.
Moi, je comprends ce que tu veux dire. Après, bah, pour parler de Hearst en particulier, moi, j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'en faire déjà un personnage de film, quoi. C'est comme Citizen Kane, c'est comme Kane dans Citizen Kane. En fait, ils vont en faire une espèce d'archétype. Donc, tu le vois pas beaucoup, mais tu sais que tout ce qui se passe. Si tu remontes la chaîne, c'est lui qui est au bout, quoi. C'est pour ça que tu le vois peu. C'est un peu l'empereur du mal, entre guillemets. Je mets des grosses guillemets, mais c'est un peu sa faute à chaque fois. Mais tu le verras que très peu, jusqu'à. En fait, tu le vois quoi, trois scènes, en fait, finalement.
Oui,
tu vois pas tant que
tu
ça.
Tu le vois trois scènes, et dont la dernière scène avec lui, où il te fait en plus un petit proverbe extrêmement savoureux.
L'orgue de barbarie.
Ouais. L'orgue de barbarie, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment ça l'intention. Mais après, je peux comprendre que ça puisse un peu troubler. Après, moi, pour tout ce que vous dites sur le côté alambiqué du film, moi, je suis pas d'accord, en fait. Je trouve que. Mine de rien, moi j'avais peur de ça en fait. Moi quand j'avais vu la BA, je me suis dit bon, j'ai peur qu'on se perde. Mais au début, il est vrai que je me suis dit ah, ça a commencé à name dropper, j'ai commencé à avoir des craintes. Je me dis, je me dis ah, ça va être compliqué. Mais en fait, plus le film avance, plus c'est l'émotion qui prime sur les faits, je trouve en fait. Et ça finit par bien suivre. Ça finit par vraiment bien suivre sans pour autant que tu aies besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est les conséquences sûrement qui sont importantes, plus que les faits en eux-mêmes. Et là-dessus, je trouve que c'est très réussi.
D'accord, mais est-ce qu'il. Nous, on était préparés parce qu'on s'était fait la BA, donc voilà. On s'était documenté.
C'est là où je te rejoins, Romain, et je te rejoins, Erwan, aussi. C'est que je pense que vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas vu Citizen Kane, qui ne connaît pas cette histoire, il n'y a aucun effort de mise en perspective. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire américaine. Il faut connaître quand même cette histoire qui se passe à Hollywood. Il faut connaître Hearst. Il faut connaître Mankiewicz, qui était quand même pas non plus très connu, on connaît beaucoup mieux son frère. Donc je pense que si vraiment tu as fait zéro recherche Wikipédia, zéro truc sur le film, tu peux être un peu paumé. Après, c'est là où je me situe vraiment entre vous deux, c'est que je trouve que le film, je suis d'accord avec toi Kevin, au bout d'un moment t'embarques et en fait on s'en fout un peu, on comprend juste que c'est un mec puissant contre qui il a une dent contre lui et il va écrire un film sur lui, et je trouve que c'est pas forcément non plus indispensable d'avoir toutes ces références, mais le film passe mieux si tu les as.
Ouais, mais ça reste élitiste du coup, c'est ça le problème.
Je sais pas si c'est élitiste. Et puis après, j'aimerais, avant que Clémence fasse son éloge.
Non, mais je voulais juste rebondir sur Clémence.
Vas-y.
Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que j'ai pas vu Citizen Kane, ça m'a donné très envie de le voir. Je connaissais pas l'histoire et il y a des exemples très précis dans le film qui te font bien comprendre qui est quel personnage. Par exemple, le fait que Mank soit scénariste, la première scène où il est introduit avec son équipe de scénaristes autour de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expliquer le scénario. Un scénario qu'ils ont imaginé pour un film au producteur. Et cette scène, elle t'explique très très bien qui ils sont, face à qui, dans leur métier en fait. Autre exemple, Louis B. Mayer, tu peux ne pas le connaître, genre le nom, tu le rattaches pas à Metro Goldwyn Mayer, tu vois. Et bah le truc, c'est que quand il est introduit, ils sont dans un couloir où il y a le logo derrière. En fait, après, tu vois, c'est un film qui te donne pas comme ça, clé en main, il te met pas des cartons pour te dire qui est qui. Mais tous les indices sont là tout le temps dans la mise en scène.
Oui, mais
exemple,
parce que toi,
exemple.
Irving,
je sais toujours pas ce qu'il fait, je sais toujours pas qui il est.
Moi non plus,
il a l'air super important.
Moi non plus, je sais pas qui c'est, mais j'ai très bien compris dans le film qu'il était du côté des producteurs parce qu'il était au-dessus, il chapeautait les scénaristes, qu'il est juste en dessous de Louis Mayer, tu comprends ça, et qu'il va dans le sens de ceux qui sont au-dessus de lui. Et en fait, tu le comprends très bien, l'histoire. Après, voilà.
Mmh.
Et puis, non, mais tu comprends, mais bon, c'est un peu.
Non, désolé, je m'excite, mais parce que j'ai trop
de
mais chacun.
Non, mais t'as raison. T'as pas submergé, en fait.
Je trouve que c'est un peu injuste de dire d'emblée que si on n'a pas les clés, le film est mal fait. Parce que pour moi, c'est exactement comme le.
Non, mais c'est pas mal fait, c'est juste que tu.
Non, mais Tarantino, c'est encore autre chose.
Pour moi, Tarantino, il faisait quand même plus d'efforts pour t'immerger dans cette époque.
On est dans les années 70, donc c'est un peu plus. Parlant quoi.
Ça démarre quand même but en blanc quoi. Enfin, tu vois,
et tu vois, Marion Davis, je sais pas non plus qui c'est, hein. Je sais même pas dans quel film elle a joué, à part ce qui est dit dans le film. Mais en fait, je trouve que le film te donne des indices. Tu vois très bien
juste...
qui est.
Alors, moi, il n'y a pas de problème parce que déjà, bon, je suis femme de Fincher, donc le mec pourrait faire un film demain complètement expérimental que j'irai voir parce que c'est Fincher et il y a un nom qui est derrière. Mais je me dis, je me mets à la place d'un mec lambda qui zappe sur Netflix, qui se dit, tiens, manque. Et qui regarde, au bout de deux minutes, il a déjà raccroché.
Oui, mais est-ce qu'on fait des films pour les gens lambda aussi ? Je suis désolé.
Non, mais c'est pas ça. Chez Fincher, il y a un côté qui est quand même, mine de rien, populaire.
Mais c'est populaire malgré lui, et je suis désolé. Mais juste... Benjamin Button, c'est pas populaire.
Non, mais juste,
il faut
pas oublier que c'est son père qui a écrit le scénario. Oui, c'est-à-dire que son père a peut-être connu cette époque, ou en tout cas, on a eu des souvenirs, des réminiscences et tout. Et donc, pour lui, c'était quelque chose d'évident. Mais en 2020, c'est vrai que le film il te parvient depuis une époque quand même lointaine et ça démarre comme on dit in medias res, c'est-à-dire ça démarre but en blanc quoi, il y a pas vraiment de contextualisation et tout, mais moi ça m'a pas gêné en fait dans le fait que j'ai apprécié le film.
Justement, moi ce qui m'a un peu plus gêné, c'est en tant que consommateur classique Netflix, c'est-à-dire j'aime les choses bien faites mais pas trop compliquées.
comme quoi par exemple
Camping par exemple, d'accord. Chez l'œuvre, voilà.
Typique Netflix.
Clairement tous les Fincher, moi tous ceux que j'ai vus, j'ai surkiffé et tout, et là c'est aussi le côté noir et blanc, le côté hommage, c'est-à-dire c'est très cinéphile, c'est à destination des cinéphiles, c'est ok, moi le noir et blanc avec le grain saturé machin, putain, mais je comprenais rien, une fois sur deux je devais plisser les yeux pour dire attends, c'est bien le même personne, oui c'est bon, c'est lui, tu vois, c'est chaud machin.
mais
c'est un peu du, enfin c'est du noir et blanc, tu c'est pas, en fait je me dis le même film s'il l'avait fait avec les codes d'aujourd'hui, avec de la super prod,
un
truc,
non, des robots,
attends,
ça aurait pas été le même film,
des crevettes gonflables,
techniquement il est irréprochable ce film.
Non mais je te parle pas techniquement, attention, je te parle pas du côté cinématographique, je te parle de moi en tant que
divertissement, tu veux dire,
voilà, divertissement, c'est à dire que si tu me faisais le biopic de ce mec, exactement le même film mais en couleur avec des images enfin plus nettes et tout, j'aurais peut-être plus kiffé.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu mets le doigt sur le fait que c'est pas que le scénario qui est compliqué à aborder, c'est aussi le parti pris esthétique, et que du coup, s'il laisse des gens sur la touche, c'est pas que à cause des références.
Moi, je trouve ça inquiétant.
C'est à cause de tout son ambiance.
Tu pars avec déjà un poids, tu vois, où tu te dis, déjà, j'ai du mal.
Oui,
et
ça
en
demande
plus,
un effort.
Scénario,
c'est un film qui demande un effort.
Et quand ça demande deux efforts, ça devient encore plus compliqué.
Moi, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu. Enfin, c'est pas contre toi, mais je trouve ça inquiétant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vraiment en fait tout ce qui fait aussi le cinéma, son histoire et tout, ce qui est important, c'est ce qui fait l'histoire de cet art-là. C'est comme si d'un coup, si on devait nier le passé, disant non, mais j'ai envie juste d'être diverti, tu vois. Et moi, je trouve que c'est un problème. Il y a des films qui sont pas faits pour être divertissants, en fait. C'est pas pour ça qu'ils sont mauvais.
Est-ce que Kevin, c'est pas parce que ça sort sur Netflix.
C'est un film Netflix.
C'est-à-dire que
reste...
si ça sortait en salle, je pense
que
personne.
Mais t'as Roma par exemple, tu vois. Roma, c'est un film en noir et blanc sur Netflix. C'est un film d'auteur qui n'est pas du tout un film divertissant.
Je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être juste un film en noir et blanc. C'est pas un film qui se veut un film d'époque avec la voix,
non, bien
tout
sûr.
Ça, machin.
Mais je veux dire, sous la forme, si t'es un consommateur lambda, tu vois juste un film en noir et blanc.
Roma, ça dépeint juste l'histoire d'une un brin de vie.
Bien sûr, je parle juste de la forme. Tu sais quand même du noir et blanc. C'est quand même quand t'es un consommateur Netflix de base, j'ai l'impression que tu vois un film en noir et blanc, tu vas pas y aller.
C'est pas que le noir et blanc, c'est vraiment le
problème. C'est peut-être que c'est sur Netflix, et effectivement, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre des films pour cinéphiles, parce que ça n'a pas forcément cette aura-là. Néanmoins, je pense que plus ça va aller, plus il y aura des films d'auteurs sur Netflix.
Oui, on a déjà eu ce débat plusieurs fois dans l'émission.
Donc,
heureusement que Netflix est là quand même.
Donc, heureusement que Netflix est là. Ça revient encore sur le débat petit écran, tant qu'un grand écran, hein, parce que c'est sûrement un film qui serait plus acceptable pour beaucoup de monde s'il était sur grand écran.
Ouais, j'avoue.
Mais bon,
j'avoue.
Je veux bien rebondir parce que je trouve un des défauts du film. Je trouve qu'en termes de photos, donc comme c'est un film historique, entre guillemets, qui parle d'une ancienne époque, moi j'aurais préféré une image moins numérique, c'est-à-dire moins définie. Et moi j'aurais carrément kiffé qu'il tourne en 16 mm ou en 35 mm pellicule et qu'on ait du vrai grain. Et là, en fait, il a tourné en RAID 8K, donc c'est genre super, super défini et tout. Et je trouve que du coup, le noir et blanc, fait un peu faux. Et je vois même les brûlures de pellicule, les petits points blancs et tout. Je vois qu'ils ont été rajoutés après. Tu
c'est
vois.
Peut-être un défaut de
et,
Fincher aussi.
Et
de...
ça, moi, il y a des moments... C'est un détail, en fait. Mais esthétiquement, il y a des moments où je me suis dit « Ah, putain, là, je sens Netflix, tu vois. Je sens qu'on lui a demandé... » Si, si, parce que Netflix, t'es obligé de tourner dans un certain minimum de K, 6K ou 8K,
ah,
je sais plus.
Oui, okay,
mais en gros, t'es obligé, quand tu tournes chez eux, d'être dans une certaine définition de caméra et tout, pour, je sais pas, des standards de visionnage et tout. Et du coup, je me suis dit, merde, ça, il l'aurait fait pour le cinéma, je pense qu'il serait allé à fond dans la pellicule et le truc super assumé. Et là, ça m'a un peu gêné. Le côté, je rajoute en post-prod des effets de pellicule, je me suis dit, ah, c'est un peu artificiel. Mais la photo est quand même incroyable, le noir et blanc est très beau, c'est très contrasté et tout. Moi, j'ai adoré les clins d'œil à Citizen Kane, il y en a plein. Oui. Notamment, tiens, quand on fait un flashback, bah, le flashback commence par la lumière qui baisse et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super beau. Je reste juste sur les défauts pour moi, entre guillemets. La musique, j'ai été un poil déçu parce que moi j'adore Trent Reznor et Atticus Ross, c'est donc les deux membres de Nine Inch Nails, et en fait je m'attendais à une musique électro et un peu moderne sur cette histoire ancienne, et en fait non, ils sont partis à fond dans l'orchestral et le classique hollywoodien, et je trouve qu'ils sont pas à fond à l'aise là-dessus parce que voilà, c'est pas John Williams,
c'est difficile aussi pour eux qui représentent une musique un peu plus moderne,
et
de,
bon,
de
j'étais un poil déçu par la musique, et après j'ai trouvé ça un peu mécanique dans la mise en scène, c'est-à-dire que moi j'adore Fincher, mais je trouve que son défaut, c'est que parfois il y a un manque d'émotion parce que il laisse pas trop vivre ses acteurs à certains moments, et là j'ai senti un peu à des moments où ils sont obligés de marcher sur tel repère pour dire telle réplique et avancer jusqu'à tel truc pour dire tel truc, et j'adore, c'est virtuose quand tu regardes, c'est super satisfaisant, mais je me suis dit putain, t'as quand même Gary Oldman, t'as des acteurs de fou et tout, j'aurais aimé sentir qu'ils leur lâchent un peu plus la bride et que c'est un peu moins tenu en termes de mise en scène, mais voilà, on va pas reprocher à un metteur en scène de faire de la mise en scène non plus, donc voilà. C'était les défauts que j'ai trouvés.
Des qualités ?
Je trouve que c'est une immersion qui est réussie vraiment dans cette époque, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment le mélange entre la magouille des studios, la politique, le business, l'art, tout ça qui se mélange, et les conséquences dramatiques que ça a sur des vies humaines, notamment sur ce pauvre Mankiewicz, c'est là qui est un peu pitoyable. Je trouve qu'il y a une fin de film qui fonctionne bien avec une accélération dramatique. Il y a plein de clins d'œil à Citizen Kane dont j'ai parlé. J'ai trouvé Gary Oldman exceptionnel, vraiment. Il est juste, tu le reconnais. Pas
ça,
en fait,
on est
quoi.
D'accord, ouais.
Enfin, il est fou, et il a une séquence, la séquence où il parle dans le dîner, où il est complètement ivre, qui est
l'affiche du film,
incroyable, vraiment, et qui vaut presque le détour, enfin, de voir le film que pour cette séquence. Et j'ai trouvé touchant en fait que ça soit un scénario de son père, parce que j'ai senti du coup Fincher super respectueux de l'écriture de son père, et voilà, ça m'a touché en fait. Voilà, c'est ça les qualités que j'ai trouvées.
Et Clémence, toi qui voulais finir sur une bonne note pour nous emmener dans d'autres sentiers.
Non mais franchement, je suis super contente. En fait, j'en attendais pas tant. Vraiment, quand on avait parlé de la BA, j'étais la première à redouter des références historiques à l'âge d'or d'Hollywood que je comprendrais pas, et un film comme ça très référentiel, j'avais pas vu Citizen Kane justement, et en fait j'ai été emportée comme l'expliquait Kevin tout à l'heure, c'est-à-dire que le début du film me faisait un tout petit peu peur, ça démarre vite en effet, il faut raccrocher les wagons, mais je me suis vite laissée embarquer par l'émotion, et pour moi c'est vraiment une intrigue qui passe par l'émotion, mais de ouf quoi, prends-en de la graine Nolan quoi, j'ai envie de dire au passage. Parce que vraiment pour moi, tous les personnages sont écrits ultra incarnés et joués ultra incarnés. Et c'est ce qui justement nous permet, sans exactement savoir qui c'était dans la vraie vie, de les voir là en tant que personnages d'une histoire, tous avec des liens émotionnels les uns aux autres qui relient tous au personnage de Mank. J'étais très très touchée. Et il y a un truc contre toute attente qui m'a complètement embarquée dans le film aussi, c'est la dimension politique. Parce que dans cette histoire finalement... on est sur le moment où il écrit le scénario de Citizen Kane, mais on a des flashbacks qui nous permettent de voir pourquoi il est en train d'écrire cette histoire qui fait référence à William Hearst, ce grand ancien journaliste qui est retranché dans son manoir et qui a plein de thunes. Et en fait, tout ça a un aspect très politique, et on est vraiment dans une confrontation du socialisme versus capitalisme au sein des studios hollywoodiens. Avec toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'être un artiste, un scénariste, écrivain, littéraire dans une industrie qui veut faire du chiffre. Et moi, mais à partir de ce moment-là, ça m'a totalement embarqué. On a ce manque qui est un scénariste donc plutôt socialiste dans l'âme, plutôt idéaliste, pas du tout nombriliste, et qui pense aux autres, qui est vraiment dans l'empathie. Moi, le personnage m'a ultra touchée, en fait, j'étais avec lui. Et on voit toutes les claques qui se prend dans la gueule en côtoyant des Louis B. Mayer qui veut faire du chiffre, des William Hurt qu'ils veulent à côté de lui, mais qui en ont rien à carrer de lui, en fait. Cette fille, Marion Davis, qui l'intéresse, qui a les mêmes idéaux que lui, mais qui, en fait, est assez intéressée par sa situation et sa condition, et qui, à un moment, le lâche, en fait. Et on comprend petit à petit, au fil de ces flashbacks, pourquoi il assume d'écrire le scénario de Citizen Kane et pourquoi il va aller jusqu'au bout et même demander à être crédité au générique. En fait, on comprend une espèce de haine dans cet homme qui, au fond, n'était pas du tout haineux au départ, qui est juste quelqu'un de franc et d'honnête, et qui, en fait, on pouvait plus, quoi, de ce milieu de merde pendant des élections où les républicains passent devant les démocrates, où il y a des magouilles dans tous les sens. Et moi, mais du coup, chaque scène du film à partir de là m'a totalement emportée. Et voilà, au-delà du côté industrie hollywoodienne, les détails de ce moment-là, quel film il faisait, quel machin. On évoque le magicien d'Oz, des trucs comme ça. Enfin voilà, moi ça me parle pas plus que vous, hein. Mais vraiment j'étais avec les personnages.
Dans l'émotion, quoi. Mais moi j'ai bien aimé. C'est vrai que bon, après le film, c'est pas le meilleur Fincher pour moi. C'est pas un des meilleurs films que j'ai vu. Ça reste mon avis personnel. Mais par contre j'ai bien aimé l'opposition entre le capitalisme autour du cinéma. Donc les mecs, pour eux c'est une industrie, quoi, et rien d'autre, et l'artistique d'un autre. Et justement ce problème-là, cette frontière-là qu'il y a entre ces deux pensées, l'artistique et le capitalisme, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être aussi en écho, peut-être avec la carrière de Fincher.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, Fincher a déjà eu ce positionnement, par exemple, avec Fight Club. Mais je trouve, en revoyant Fight Club, que même c'est assez débuts, immature, et que ça ne me parle plus aujourd'hui. Alors que là, Mank me parle totalement. En termes de comment tu te positionnes quand tu es dans une industrie, un marché, un truc culturel, quelle est ta vocation, quoi, qu'est-ce que tu veux donner aux gens.
Surtout lui, qui a commencé avec Alien 3.
Et je vais dire une dernière chose, c'est les personnages féminins dans ce film. En fait, on a l'impression, a priori, que ce sont des personnages féminins, femmes d'eux, secrétaires d'eux, qui seraient des faire-valoir pour les hommes, et notamment pour notre héros. Et en fait, je trouve que ces personnages féminins servent vraiment beaucoup l'écriture global du scénario, parce qu'on a cette secrétaire dont on adopte pas mal le point de vue dans le temps présent quand il est en train d'écrire le scénario et qu'elle est avec lui, ils construisent une relation ensemble assez touchante. On a sa femme qui est tout le temps là en retrait, mais avec qui il a une complicité ultra belle,
indépendante finalement.
Elle est vachement indépendante et elle le nourrit vachement, en fait elle le conforte dans ses idéaux, ils sont tous les deux idéalistes ensemble et c'est super beau,
c'est
quoi, leur
beau
histoire d'amour.
Et tu sens qu'elle est avec lui,
même Marion Davies, elle est super touchante, parce que tu sens qu'elle est complètement dans une prison dorée, en fait.
Oui, en fait elle est un peu son alter ego, mais qui ne va pas aussi loin que lui parce qu'elle est bloquée, mais elle est dans un piège comme lui, en fait.
Peut-être ça, en fait, la finalité du truc.
Et du coup, je trouve que ce personnage, il est super proche des femmes. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé Mank, en fait. Ça m'a fait aimer Herman Mankiewicz.
Bah, ça lui redorera peut-être le blason. Fincher, qui a souvent été qualifié de misogyne à travers ses films.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas s'il était misogyne, mais en tout cas, il n'avait pas forcément des personnages féminins extrêmement bien écrits avant.
Non, mais je veux dire, la facilité. Après, il y a débat, on va pas ouvrir le truc, mais par rapport à la représentation des femmes dans ces films, on l'a qualifié de misogyne.
Mais je pense que c'est ces personnages féminins les mieux écrits qu'il les fait, en tout cas. C'est pas lui qui les a écrits, tu me diras.
Donc ça rattrapera.
C'est son père. Mais de tous les personnages féminins des films de Fincher, je trouve que c'est les mieux. Quoi.
Comme quoi, il y a une morale, il faut toujours écouter papa.
Et papa était plus en avance que fiston.
Et moi, j'ai adoré l'acteur qui fait Louis Mayer. Je sais plus son nom. Grosse tête à claque.
Il fait partie, de la liste d'acteurs qu'on a déjà vu partout. On connaît pas le nom.
Il est souvent dans les Coen, j'ai l'impression, de lui.
Tête à claque, peut-être qu'il joue trop bien. Et du coup, en fait, c'est ça qui déséquilibre avec Hurst, qui est lui plus en retrait. Ouais. Du coup, tu te dis, mais c'est vraiment ce mec, j'ai envie de l'emplafonner. C'est lui qui cause tous les torts de ce manque.
Et moi, j'en pouvais plus de lui. Orson Welles, il est quasi absent du film. Il apparaît juste au début, au téléphone, et à la fin, pour une scène qui est assez forte. Mais c'est vraiment pas du tout sur Orson Welles. Moi, je pensais que ça allait être plus sur leur relation et tout. Finalement, en fait, assez peu.
C'est marrant parce que du coup, tu t'attends à un truc qui va justement jouer sur cette polémique de comment ça s'est fait, cette fameuse co-écriture. Et en fait, ça n'en parle pas du tout. Mais à la fin, tu te rends compte que tout le film que tu viens de voir, ça explique tout.
Mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, Fincher, père et fils, tenait à justement remettre en avant Mankiewicz. plutôt que Orson Welles pour dire en fait c'est pas que Orson Welles, ouais, les gars, c'est ouais, Mankiewicz, ouais, parce qu'ils se sont un peu tirés la couverture, bah, l'un l'autre, et on le voit à la fin du film.
Le film dit clairement que Orson Welles n'a rien à voir
dans ce
film.
Il a rien écrit.
Ouais, voilà.
Il a
réalisé. C'est quand même un bête de réel, mais il a rien écrit.
On peut pas dire qu'il a piqué à qui que ce soit, étant donné qu'il a tout créé.
Et en réalisé, il est co-auteur du film.
Donc non, c'est une belle collaboration, mais c'est vrai qu'il y a des personnages de l'ombre. En tout cas, c'est un film qui nous a rempli d'émotions. Alors ça dépend, des bonnes, des mauvaises. Chacun l'a pris comme il le sentait. Ça fait un beau débat. Moi, j'aime bien quand ça débat comme ça. Ouais. A fait Tabea. On reconnaît quand même que c'est un bon film. Hein, techniquement, il n'y a pas de problème.
Oui, oui, oui. Ouais.
Donc voilà.
Après, je suis d'accord avec toi, Romain. Dans la filmo de Fincher, c'est à part. Quand même.
Ah, c'est totalement à part. C'est... totalement à part. Mais c'est peut-être
pas
aussi.
Pas un thriller. C'est voilà.
C'est le par le biais de Netflix aussi. C'est peut-être aussi. Enfin, on va savoir ce qui se passe derrière
l'histoire.
Après, c'est
pas le meilleur.
Film-là.
Je trouve pas que ce soit le moins bon non plus. Hein.
Ah non, mais c'est clair.
Bah, non, parce qu'il y a Alien 3.
Non, je compte pas Alien 3. Je compte pas Alien 3.
Tu vois comme quoi la carrière de Fincher commençait mal.
Elle a commencé par le pire. Donc après, c'est mieux.
Je compte pas Alien 3.
Bref, Hollywood nous fait tourner la tête et nous fait raconter de belles histoires. Donc ça, c'est nos avis, mais est-ce qu'on le recommande, ce film?
Ouais, allez.
Ah bah, oui,
allez.
Ouais, bah
ouais, je crois que t'allais dire les avis des internautes.
Non, c'est fini, ça. On passe au rococo.
À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui? À qui? À qui?
Les rococo qui nous permettent de donner nos recommandations avec plus ou moins de mauvaise foi. Qui recommande ce film à qui aujourd'hui? Clément, tu recommandes ce film?
Alors moi, j'ai mis aux gens qui se sentent mal après avoir vomi en soirée devant d'autres gens. ce film est la preuve que ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, en l'occurrence même aux scénaristes de Citizen Kane. Voilà, donc vous pouvez aller de l'avant même après.
Ça me rappelle quelqu'un.
Ça me rappelle un autre scénariste.
Je pensais à quelqu'un autour de la table. Mais
je vois pas de qui vous parlez.
Je ne dirai pas le nom.
Je ne dirai pas le nom.
Pas de nom. Kevin, à qui tu penses
À qui tu penses, je pense. Tu veux que je le dise?
À qui tu recommandes ce film?
Alors je recommande ce film, et je sais qu'ils sont nombreux en ce moment, à tous les télétravailleurs de France. Il y a un setup assez incroyable que je vous conseille, c'est le lit, repose-pied, bouteille de whisky.
Très efficace.
Très efficace.
Ça donne des scénars.
Incroyable.
Ah, des chefs-d'œuvre. Erwan, des rococo?
Et ben on va rester sur le même thème, hein, et une fois n'est pas coutume, je vais, c'est pas la première fois que je le fais à nouveau, recommander ce film à tous les pieds de comptoir de ce monde, car c'est une nouvelle preuve que vous avez encore un avenir et quelque chose à faire.
L'alcool,
vous pouvez, y arriver.
Le génie.
Voilà. Voilà. Exactement.
C'est à double tranchant, hein, je pense. Hein. À mon avis, il y a deux cas.
Tout le monde va pas y arriver, mais tentez votre chance.
Clémence?
Moi, je recommande aux lycéens et étudiants qui désespèrent de rendre leur devoir maison à l'heure quand ils ont l'impression que les délais sont impossibles, et ben ce film donne de l'espoir. Il a réussi à écrire 200 pages en 3 jours, quoi.
Mais il faut une secrétaire, une très bonne secrétaire d'ailleurs.
Ben non, parce qu'à la fin il le fait tout seul.
Ah,
il recommence à écrire tout seul.
Mais alors, à 13 jours de la deadline, il n'avait que 97
mais
pages, et à
que...
la fin il y en a plus de 200, donc en fait il a fait genre les 3 quarts.
Et puis pour raccrocher à ta rococo, Erwan, c'est vrai que l'alcool aide, donc lycéen, étudiant.
Allez voir Drunk.
Comme ça que je vais au bac.
Vous pouvez écouter Drunk, épisode combien, Clément?
Car...
il n'y a pas longtemps.
43 et 4 et 3, ça fait 7.
Ouh. Oh. Et toi, Romain, tu recommandes?
Alors moi, je recommande ce film à tous les journalistes du Masque et la Plume, car ce film leur fera certainement un effet Madeleine de Proust. Ça leur rappellera les films qu'ils voyaient en salle quand ils étaient jeunes. Voilà, c'est gratuit, c'est méchant, je m'en bats les couilles.
C'est gratuit et méchant. Sans aucune objectivité.
Si seulement c'était ça la seule raison qui expliquait leur connerie.
Tant de raisons.
Alors,
il faut
savoir
comment
que
il enfonce le clou.
Les graviers du cinéma ont mis un caillou sur 5 à
un caillou sur 5.
Ah non, ouais.
On leur parlera des cailloux.
Ah, je me désabonne.
Ils ont dit
que
ça manquait de couleur.
Ah, ils ont été un peu pointus.
Encore beaucoup de choses à dire, encore beaucoup de choses à débattre, encore beaucoup de choses à découvrir. Mais pour l'instant, les amis, je crois qu'il est temps de se dire au revoir.
On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. On bandera quand on aura envie de bander.
Voilà. 7. Voilà.
Oh.
Car c'était le chiffre de
la
ce
semaine.
Podcast. 7 pour les 7 de Chicago dont on s'est fait la BA et dont on vous parlera très bientôt parce qu'on va se mettre dans nos canapes le cul en choucroute. Voilà.
Le cul en écrevisse.
Tranquille, pépère, posé au calme devant les 7 de Chicago. J'espère que ça va pas trop nous chauffer la tête. Et puis, ben, en tout cas, beau débat sur Manque, hein, Netflix qui nourrit notre cinéma là, ces derniers temps. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Les salles restent fermées. Par contre, pour vous teaser un peu la semaine prochaine, on va remettre un peu de couleur dans tout ça parce que le noir et blanc,
Ça va à deux secondes.
Les années 60, ça va à deux secondes. Mettons beaucoup de couleurs, de musique et d'action et d'humour et revenons dans l'univers empirique de Disney. Donc Raya est le dernier dragon. C'est le dernier film des studios Disney.
Et le dernier dragon des studios Disney.
Qui s'appelle Raya et le
Raya et le dernier dragon. Je répète, Raya et le dernier dragon de qui nous vient de l'Empire. L'Empire aux grandes oreilles.
Moi, je propose qu'à chaque fois qu'on dit Disney maintenant, au montage, on met de l'orage.
Disney. Ce sera la semaine prochaine, restez à l'écoute, hein. Peut-être d'autres surprises qui viendront comme ça poupées dans vos oreilles, voilà. Toujours aux premières loges de l'actualité cinéma, c'est Feta Béa.
Et avec jamais de retard.
Ouais. Jamais de retard.
À la pointe.
Toujours hebdomadaire, les amis. On vous fait des bisous, vous dit au revoir. Les réseaux, tout ça, vous connaissez Facebook, Twitter, Instagram, le site fetabea.fr, les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre ami,
votre daronne.
J'aime bien. Par exemple, votre ami.
Votre ami.
Votre hamster.
On sait très bien que vous en avez pas plusieurs.
Et votre coiffeur, évidemment, quand vous faites un petit dégradé américain. Allez, on se dit au revoir et à la semaine prochaine.
Bisous.
Ciao. Bisous.
Bisous.
Shoshana!
Qu'est-ce qu'un complexe abracadabrant? Putain, elle est dure celle-là.
Qu'est-ce qu'un complexe abracadabrant?
C'est marrant, abracadabrant, qu'est-ce que c'est le truc que j'avais jamais dit?
Le risque est que dans la rixe, le ménisque se casse, le risque et que dans la rixe, le ménisque se casse, le risque et que dans la
rixe,
le ménisque se casse.
Il paraît que c'est Rimbaud qui a inventé ce mot.
Ménisque?
Abracadabrantesque.